Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et bonjour Guy de Toulza.
Bonsoir, bonsoir.
Ancien professeur à l'École des Beaux-Arts, conservateur de musée, membre de la Société archéologique du Midi Toulousain. Nous allons continuer sur cette rétrospective de l'architecture toulousaine de la Renaissance.
Pardon Sébastien, c'est la Société archéologique du Midi de la France.
Ah oui, du Midi de la France, pardon.
Permettez-moi.
Je suis pris dans l'enthousiasme du titre de l'émission. Et donc dans ce Midi de la France, on construit, on fait du commerce et donc on peut avoir des moyens pour édifier de beaux hôtels particuliers.
Et du commerce, on va en avoir un qui va se développer de façon très, très importante. Et qui a laissé des traces dans l'architecture, Guy.
Voilà, alors le début du XVIe siècle va être marqué d'abord par une légende, appelons ça comme ça, qui est celle de Toulouse enrichie par le pastel et des hôtels pasteliers. Or, malheureusement, si c'est une belle image qui touristiquement est porteuse, elle est historiquement fausse. Les grands marchands font du commerce du pastel, mais souvent de manière sinon limitée, parce que c'est très enrichissant quand on réussit son coup, mais ils vendent beaucoup d'autres choses à côté. Et quand on voit tous ces grands marchands, ils vendent de la laine, du cuir, parce que ça marche bien, on a
du
toujours
blé.
Besoin. Du blé, des métaux, des colorants, des épices, des plantes tinctoriales. Il n'y a pas que le pastel, il y a aussi la lagode et tous les produits qu'on va utiliser pour pouvoir teindre les tissus dans toutes les trois grandes couleurs, hein, que sont le rouge, le bleu et le jaune. À côté de cela, ils font évidemment un petit peu de pastel. Mais le pastel n'a pas enrichi la ville. Je faisais souvent la comparaison... la moutarde n'a jamais enrichi Dijon et le chou-fleur ou le porc n'a jamais enrichi la Bretagne, ça se saurait. Donc c'est pas ça qui fait la richesse, c'est évidemment le dynamisme de la ville et la conjugaison entre le carrefour commercial qui est Toulouse et un autre élément qui va prendre de plus en plus d'ampleur, c'est le Parlement de Toulouse. Le Parlement, ne l'oublions pas, a été fondé en 1444 par Charles VII. Il servait évidemment à pouvoir rendre la justice en dernier ressort au nom du roi, alors que Paris était sous la coupe des Anglo-Bourguignons. Et ce Parlement, il va se développer considérablement, son pouvoir va se développer à la fin du XVe, au début du XVIe siècle. Quand Louis XI vient justement à Toulouse après le grand incendie, il vient montrer tout le poids qu'il accorde à ce Parlement. Et le Parlement, qui sont des charges à acheter, vont être achetées par les grands marchands. Et ça, c'est assez étonnant de voir que les marchands comprennent la fragilité de leur commerce, même si c'est peut-être extrêmement juteux momentanément. Hein, mais on peut avoir des cracks, et le pastel aura un crack célèbre, on le sait, au milieu du XVIe siècle. Et que font-ils de leurs enfants? Ils profitent de la grande université, de la célébrité de l'Université de Toulouse, qui est une université de droit canon au départ, hein, en 1229, après le traité de Paris entre le comte de Toulouse et Blanche de Castille et Saint-Louis. C'est donc une université de droit célèbre, et donc on met ses enfants à faire du droit, et on leur achète des charges au Parlement. Parce que les charges au Parlement... C'est une garantie, je dirais, à vie et souvent héréditaire, de revenus conséquents. Les charges sont transmissibles, évidemment, de père en fils. Ça, c'est une chose qui est évidemment importante. Et les procès On sait parfaitement les faire durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Combien d'affaires ne se terminent pas, de successions ne se terminent pas, de discussions ne se terminent pas, et on a besoin de greffiers, on a besoin d'huissiers, on a besoin de juges, on a besoin de mettre des requêtes, on a besoin de d'avocats, évidemment, en quantité. Et tout ça crée un monde parlementaire qui, nécessairement, par le latin, sont des gens cultivés et qui, à l'aube du XVIe siècle, vont acheter des livres. Et c'est un élément auquel on ne pense pas, mais la richesse intellectuelle de Toulouse, elle va se faire grâce au développement de l'imprimerie, évidemment, Toulouse, alors, merci Gutenberg, hein, oui, la création des caractères d'imprimerie, Cologne, etc. Mais l'arrivée à Toulouse d'imprimeurs qui vont imprimer d'abord des livres pour la faculté, donc d'abord des livres de droit, mais très rapidement, on va vouloir passer du roman qui jusque-là était manuscrit en publication imprimée. On va faire venir par le grand commerce, puisque j'évoquais la dernière fois le rôle des grands marchands venus d'Italie, d'Espagne, de Catalogne, du Pays Basque, de Lyon, de Paris, qui viennent à Toulouse ou qui ont des succursales à Toulouse. On va avoir des livres qui vont circuler, et pas seulement évidemment des livres de commerce ou des livres de droit, mais des livres qui sont des récits, qui peuvent être aussi des récits de voyage. Tous ces grands marchands voyagent. Je rappelle que 1500, 1525, 1550 sont des années saintes. Donc on va à Rome, on a des rapports constant avec la capitale de Rome, et Dieu sait si c'est important, puisque nous sommes à l'aube de la réforme, également au même moment, hein, pensez à Luther et à tout le mouvement qui se crée à Rome, voilà, avec un pape, Léon X, qui est un Médicis, qui a eu sa tiare grâce à la richesse de la banque paternelle des Médicis. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes, et tous ces grands parlementaires vont avoir des bibliothèques. Les bibliothèques vont commencer à avoir des gravures, et l'on va voir arriver à Toulouse une culture savante, et en particulier des représentations gravées des monuments de la Rome antique, avec ses premiers livres de voyage. On a aussi, avec la Renaissance italienne, des livres qui sont illustrés, représentant des monuments ou représentant des architectures, soit de type antique, soit de type Renaissance. Tout ça arrive à Toulouse, et on aura bien entendu les traités d'architecture qui vont suivre. Et avec ces traités d'architecture, les maîtres maçons que l'on va avoir à Toulouse, les architectes, qui sont nombreux, vont trouver là, peut-être pas eux directement, mais par leurs commanditaires, des modèles pour faire une architecture savante. On va passer...
Donc Toulouse change.
Ah, absolument.
Carrément.
Ça se voit très bien en quelques...
Et alors, quelle différence peut-on faire, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, entre des bâtiments, des hôtels particuliers construits par les grands pasteliers, on pense à l'hôtel de Bernuy, on pense à l'hôtel d'Assesa, et des hôtels construits à peu près pendant la même période par les parlementaires?
Alors, il y a beaucoup plus... je dirais deux fois plus d'hôtels construits par des parlementaires que d'hôtels construits par des marchands. Marchand pastelier, moi j'ai retiré le mot pastelier parce que je mets tout à fait en doute le rôle du pastel. Enfin, peu importe. Prenons un exemple qui est significatif. Nous évoquions la dernière fois l'hôtel de Boisson avec cette magnifique fenêtre qui se donne sur la deuxième cour que... L'hôtel étant ouvert au public, on peut très facilement, pour un Toulousain, aller le visiter. Or, dans la première cour, il va y avoir des travaux. Lorsque l'hôtel de Boisson va être acquis par les Chevéry, autre grande famille donc, venue du Pays Basque, on l'avait évoqué, les Chevéry, qui sont un des grands marchands qui commerce également du pastel, mais ce n'est qu'un des éléments de son
commerce. Oui, et d'ailleurs, pardon, le pastel, c'est très rémunérateur, mais c'est très exposé. Parce qu'entre le moment où on achète le pastel et le moment où on a le rapport de la vente, il faut tenir 4 ans.
Absolument.
Donc, si on n'a pas les reins solides sur le plan financier, ça ne marche pas.
Absolument, c'est très compliqué. Le pastel, entre le moment où on plante la graine Et le moment où on est payé de la récolte, d'abord, on fait une récolte sur 2 ans, puisque on peut cueillir les feuilles plusieurs fois de la plante. Ensuite, il faut la traiter, en faire la granate, en faire les petits berlingots que l'on va vendre pour la teinture, l'expédier et être payé, si on est payé, et avec le retard de paiement, parce que je dirais, c'est pas qu'aujourd'hui où les entreprises ont des retards de paiement, ça arrive déjà. Donc, il faut avoir les reins solides, et c'est pour ça que très rapidement, ces grands marchands, on peut dire dès la deuxième décennie du XVIe siècle, deviennent des banquiers. Et parce qu'ils ont les finances, et ils se rendent compte finalement que la banque, quand on prête sur gage, c'est infiniment plus sécure que de vendre quelque chose à quelqu'un qui va se trouver à Anvers, qui va se trouver en Catalogne, à des centaines ou milliers de kilomètres, dont on ne sait pas du tout s'il payera la marchandise qu'il a commandée.
D'ailleurs, alors, Aceza a survécu grâce à la banque.
Absolument.
Alors que Bernuy a disparu complètement.
Et Chevéry aussi fait ruiner.
Emporté par la crise de l'indigo.
C'est
l'arrivée de l'indigo.
Quand on voit cette opposition entre les marchands et les parlementaires, on se rend compte que la modernité, l'inventivité est du côté des parlementaires. Et c'est par la suite, et on le voit avec Aceza, que l'on aura la bascule où les marchands vont vouloir faire aussi bien que les parlementaires.
Oui, donc c'était très important de mettre au point cet aspect que je pense qu'on a tendance à gommer.
Voilà.
À Toulouse, l'importance vraiment du Parlement et l'importance, ce qui fait que Toulouse est la ville des savoirs aussi, et l'importance de la culture de ces parlementaires qui ont fait évoluer.
Toulouse, c'est le second Parlement de France. C'était Paris, bien évidemment, avant la guerre de Cent Ans, et ce sera. Et le plus prestigieux, c'est évidemment Toulouse, avec un territoire absolument considérable pour le XVe siècle.
Merci beaucoup, Guy, d'avoir apporté, de nous avoir amené sur ce terrain. Et à la semaine prochaine pour la suite.
Merci.